France 24 et RFI présentent
Hello la famille, bienvenue dans Légendes Urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « L'artiste est la main qui, par l'usage de son génie, met l'âme humaine en haute vibration ». Quelle joie que de recevoir cet artiste iconique, véritable légende du reggae francophone. Il a su ancrer dans les esprits à jamais et pour toujours son répertoire désormais classique et intemporel. Sa musique à lui,
elle te rend ta dingue, ta dingue, ta dingue.
Simplement parce qu'entre autres,
elle répand l'amour le matin comme le soir.
Oui, l'amour et la bienveillance de mille façons, parfois en rendant hommage à
toutes les femmes du monde, qu'elles soient Mama ou Fatma, des filles et des mères qui luttent encore pour leurs droits.
Parfois aux guerriers de la lumière qui tentent de s'en sortir malgré
les blessures visibles, les blessures de l'âme, celles qui sont visibles, celles qui font des drames.
Profondément lucide sur les fonctionnements, ou plutôt les dysfonctionnements de notre monde, ses écrits s'inspirent de toute forme d'événements. De en passant par le mal logement, les inégalités sociales ou la désinformation, tel un lanceur d'alerte, il éveille les consciences. La réalité n'est pas la fiction et cet agitateur a bien raison de poser les vraies questions.
Comment vivre jour après jour si on t'enseigne l'ignorance?
Mais sa musique ne fait pas que soulever les problèmes en mode
j'ai plus rien, c'est comme ça.
Bien au contraire, elle apporte aussi des solutions telles que
laissons place à l'unité,
car il est évident que
nous gagnerons ou nous perdrons ensemble.
Alors il prône la responsabilité individuelle, le devoir d'éducation, d'élévation, via les valeurs nobles du travail et des efforts.
Si tu le veux, donne-toi la peine.
Conseillant de se battre pour l'amour et non contre la haine, nous poussant constamment vers le positif, nous rappelant que
il y a trop peu de temps à vivre ici.
Pour se noyer dans les tragédies. Vous l'aurez compris, chacune de ces chansons sont de véritables sources d'inspiration, de réflexion universelle, dans lesquelles tout le monde peut s'y retrouver.
Il y en a pour les jeunes, pour les jeunes, pour les vieux, pour les vieux, pour les hommes, pour les hommes, pour les femmes, pour les femmes.
Et puis il y a sa voix reconnaissable parmi des millions, véritable crooner. C'est avant tout
pour célébrer le reggae
qu'il chante, mais pas que, tellement fort et technique qu'il peut aisément s'aventurer dans d'autres styles du genre
ton son des dead, 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 dead.
Eh ouais, carrément, il se balade en faisant de l'opéra, le frère, c'est juste incroyable. D'ailleurs, il s'en amuse.
Donne-moi le micro comme un chirurgien, j'opère.
Son champ des possibles fait de lui un artiste à la fois extrêmement respecté dans le milieu très sélect du reggae dancehall, et cela jusqu'en Jamaïque, mais aussi dans celui de la variété française, qu'il a réussi à apprivoiser tout en gardant sa personnalité et son identité. Bref, copié, mais jamais égalé. Avec lui, c'est
que la crème, que l'élite, que le château. La fête, que du bon, que du bon, que du fond, que du...
Résultat des courses, 35 ans de carrière, plus de 3 millions de disques vendus en physique, s'il vous plaît, et des tournées dans le monde entier. Et cela sans jamais s'arrêter. Il confirme d'ailleurs...
Je suis jamais parti, donc je peux pas faire de combat.
Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes Urbaines à l'occasion de la sortie de son nouvel album Tribulation. Messieurs, dames, juste pour vous, la légende Nutty. Coute ça.
Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits.
Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine.
Nous gagnerons ou nous perdrons ensemble. Nous pleurerons ou nous boirons ensemble. Le grand, le seul, l'unique Nutty dans les studios de Légendes Urbaines. Nutty, bienvenue chez toi, comment vas-tu?
Ça va très bien et très content d'être ici.
Ah bah plaisir, attends, nous on est là, on est comme des oufs dans l'équipe. Tout le monde
je rectifie, très content d'être avec toi ici.
Merci beaucoup, merci. Nous aussi on est vraiment heureux de te recevoir, ça fait longtemps qu'on a envie de te recevoir, là c'était l'occasion. Tu as sorti un album le 25 octobre dernier, donc il y a quelques jours, Tribulation. Avant de parler de tout ça, tu connais le rituel, on va revenir sur ta vie qui est juste incroyable. Je veux juste savoir comment tu te sens en cette période où, voilà, 35 ans de carrière presque, T'as l'habitude de sortir des albums, t'as l'habitude de sortir des titres, mais c'est toujours un moment un peu spécial. Comment tu vis cette époque-là de sortie d'album ?
J'aime bien les sorties d'albums parce que c'est toujours une aventure qui commence. Moi, je vis toujours ça comme ça, les sorties d'albums. C'est une aventure qui commence. Il y aura des rencontres, il y aura des concerts, il y aura plein de choses comme ça. Donc voilà, c'est à ça que je me prépare quand je fais un album et c'est toujours, toujours un plaisir.
On va revenir sur tes débuts. T'es yes. né à Paris.
Ouais.
Ton papa a étudié l'architecture et puis il a travaillé en banque. Mmh. Ta maman était fonctionnaire dans un établissement scolaire. Mmh. Tu es parti. Très vite, on t'a envoyé en Guadeloupe, en fait, à l'âge de 1 an. Mmh. Donc, t'as grandi avec ta grand-mère, avec tes oncles, tes tantes.
Mes cousins, cousines.
Est-ce que t'as des souvenirs de ces moments-là, de cette époque-là ? T'es revenu à l'âge de 5 ou 6 ans, c'est ça, en France, en métropole, pardon, parce que c'est la France, bien évidemment. C'est une drôle d'histoire, en fait.
Ouais, c'était un peu compliqué,
Ouais.
Les souvenirs que j'ai de cette époque en Guadeloupe, c'est que des bons souvenirs. C'était l'amour avec un grand A. Bon, j'étais un petit gamin, je devais être un peu mignon, tu vois, et donc tout le monde me kiffait, je passais de bras en bras. J'étais le plus heureux des gamins, en fait. Donc quand je suis revenu en France, faut savoir que mes parents ont une éducation très sévère, très dure, très stricte. Donc c'est ce qu'ils m'ont transmis, en fait. Donc quand je suis arrivé en France, c'était l'inverse de ce que j'ai vécu en Guadeloupe, quoi. Ouais. C'était plutôt froid, plutôt sévère, plutôt rigide. Et moi, en Guadeloupe, j'étais dans une grande maison avec plusieurs pièces, tout ça.
Et quand je suis en plein air, en plus.
Voilà, en plein air. Et quand je suis revenu en France, j'ai atterri dans un studio sans salle de bain. Mais bon, je me rendais pas compte à l'époque, hein, je savais même pas ce que c'était une salle de bain. Et mes premiers souvenirs dans ce studio, c'est quand je prenais mon bain dans l'évier de la cuisine, en regardant la porte d'entrée. Et je trouvais ça tout à fait normal, en fait, que j'étais un gamin. Et puis surtout, la rupture avec tout cet amour, tout ce truc que j'avais vécu en Guadeloupe, c'était fini.
Mais c'est violent, en fait, parce que finalement, tu disais que tu es revenu en France quasiment chez des inconnus. Tu t'es retrouvé avec...
On m'a présenté mes parents,
On m'a présenté mes parents
et ma petite sœur, On me les a présentés, je savais pas qui c'était, puis je conscientisais pas tout ça encore, Je suivais ce qui se passait comme si c'était un film, en fait. Je me demandais qu'est-ce que je faisais là, pourquoi il faisait moche,
pourquoi
il y avait plus la mer.
Je vais pas faire de la psychologie de supérette parce que ce serait vraiment malvenu, surtout que ça, je n'en ai pas les compétences, mais on dit souvent que la personnalité d'adulte se construit à 50% entre l'âge de 0 et 3 ans.
Effectivement.
Est-ce que tu penses que finalement ces 6 premières années ont conditionné l'homme que tu es devenu ?
Certainement. Les qualités et les défauts.
Comme ?
Moi j'ai toujours eu un problème avec le juste milieu, en fait.
Ah, mais t'as fait des extrêmes, en plus.
Voilà, exactement. Je suis passé d'un amour démesuré à une froideur extrême. Bon, je n'en veux pas du tout à mes parents, c'est l'éducation qu'ils ont eue, donc c'est normal que c'est ça qu'ils ont transmis. Vraiment, j'ai aucune rancœur envers mes parents, mais bon, c'était comme ça. L'époque aussi, je suis revenu en France en 73 ou un truc comme ça, 75, je sais plus. Et voilà, je suis passé d'un extrême à l'autre. Donc effectivement, dans ma vie, des fois, j'ai un peu de mal avec le juste milieu. Mmh. Voilà, je peux être très colérique et très doux aussi en même temps. Pas en même temps,
À des moments différents. Là, ça s'appelle de la schizophrénie.
Ça serait difficile. Ça serait un cas psychiatrique. Mais effectivement, je peux passer d'un extrême à l'autre. Chose à laquelle on m'a habitué involontairement.
Tout ça pour finalement trouver la nuance. Parce que dans tes textes et dans tes œuvres, t'as toujours...
Ça a été ma quête parce que je me suis aperçu très tôt de ça, que j'avais un problème avec le juste milieu. Donc j'ai toujours, ça a été mon travail, le travail un peu de ma vie. Pour moi, une règle d'or dans la vie, c'est la juste mesure.
Et la nuance, c'est la seule façon d'être juste, en effet. Parenthèse quand même sur la situation aux Antilles, puisque toi, tu viens de Guadeloupe, tu y es souvent, d'ailleurs aux Antilles, en Guadeloupe.
Pas assez souvent, mais je connais. Quoi.
Ouais, tu connais quand même. Mmh. Un mot sur la situation actuelle.
Ça devait péter, Ça devait péter, c'était inexorable. Et puis, celui qui n'a pas vu ça venir, c'est qu'il n'est vraiment pas clairvoyant. Les gens ne peuvent pas se laisser arnaquer comme ça indéfiniment, génération après génération. Ça ne peut pas durer. À un moment, il y a bien une génération qui va se dire « Mais attends, pourquoi on paye 4 fois le prix des choses ici par rapport à la France ? C'est pas normal. »
Bien sûr.
Et là, c'est cette génération-là qui est en train de tout casser, qui est en train de se révolter. Et c'est humain, en fait. Ça serait n'importe quel peuple, ça serait pareil. Au bout d'un moment, l'être humain peut pas se laisser marcher dessus, dominé comme ça par une caste qui a tout et eux rien, qui domine depuis l'époque de l'esclavage.
Bien sûr.
Tu vois, ils ont toujours leurs petits privilèges d'après l'abolition. parce que l'abolition, ça a été quand même pas un grand truc. Ils ont pas perdu grand chose, hein, finalement, hein, de passer de l'esclavage au salariat misérable. Voilà, ça leur demande pas beaucoup d'efforts. Donc, ils sont toujours dans cette mentalité de supériorité, de monopole. Et ça peut plus durer. On est en 2024, quoi. Ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, les gens se révoltent et c'est tout à fait normal. Et ils ont tout mon soutien.
Ils ont tout mon soutien aussi, vraiment. Salut toute l'équipe de Légendes Urbaines. Et il y a beaucoup de gens qui découvrent cette situation finalement, alors que c'est pas nouveau, comme tu le
disais.
Ouais,
dis, et surtout les
Fosse, ouais, Chamberlain.
Les médias n'en parlent pas assez. Moi, je vois des journaux télévisés entiers commencer et finir sans parler de ça. Hier, par exemple, c'est le bordel en Martinique. C'est un truc de ouf.
Ouais.
Personne n'en parle. C'est pas que personne n'en parle. C'est qu'ils veulent le cacher. Pas le cacher, mais ils veulent pas que ça ait une influence sur la population. Ils ont eu les gilets jaunes, c'est... ils en veulent plus.
En effet, mais c'est vrai que le traitement de l'information, après, certains diront que c'est l'histoire des morts kilométriques et du traitement, mais bon, c'est vrai que ça reste la France, et encore une fois, voilà, c'est inadmissible, et on espère que les choses vont changer. Je parlais tout à l'heure dans l'intro de ta lucidité. Tu es connu auprès du plus grand nombre pour justement des titres très chantés, très reggae, très universel. D'autres te connaissent depuis les débuts des années 90 en mode dancehall, gros singé, plus trash. T'as été graffeur d'abord.
Pas vraiment, pas vraiment.
Non, t'as pas graffé.
Non, je taguais simplement. Ouais, non, je taguais.
Ah, tu taguais.
Voilà,
okay.
Je taguais.
Ok. T'as eu la culture hip-hop, la culture rap, tu l'as vu arriver, t'as grandi aussi dans le 13e, donc t'es allé dans les centres systèmes, espace des peupliers. Tu t'es lancé dans tout ce mouvement musical. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a spécialement touché là-dedans, même si t'as toujours une grande culture musicale ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être virulent ? Est-ce qu'il y a des injustices ou il y a un truc qui t'a piqué en particulier, qui t'a donné envie de mettre vraiment les pieds dedans ?
Moi, sincèrement, je me suis jamais senti comme un artiste engagé. Je me sens comme un artiste qui s'exprime, tout simplement. Alors, s'il y a des choses qui peuvent paraître engagées dans mon discours, c'est comme ça, quoi. Tu vois, c'était pas... Le but principal, c'est de faire de la musique, en fait. Moi, j'ai commencé la musique parce que j'aimais la musique. J'avais pas un message à diffuser ou un truc à revendiquer. C'était vraiment l'amour de la musique. Après, quand on s'exprime, hein, on n'est pas des coquilles vides. Donc on a des idées, on a des opinions, on a des façons de voir les choses qui transparaissent dans notre musique. Donc moi, ça se limite à ça, en fait. Je me considère pas comme un artiste engagé. Je suis quelqu'un qui s'exprime, qui essaie de repousser un peu les limites, pas de la liberté d'expression, mais mes propres limites.
T'as quand même fait partie d'un gros son de système légendaire, en fait. C'était la grande époque du dancehall, du reggae dancehall. Il y avait des soirées à l'espace des Peupliers, d'ailleurs, dans le 13e. Tu faisais partie d'iFight avec Tonton David, Fefe Typical, Paulino, dans le Nick Shock, Tip Top, pardon. Ça représente quoi, cette époque, pour toi ? Parce qu'il y a peu de gens, finalement, qui te connaissent sous cette époque, par ce biais-là.
Ouais. Ça représente les débuts, la naïveté, l'envie de faire les choses nous-mêmes. On était très attaché au terme ragamuffin, c'est-à-dire faire les choses, prendre les initiatives et faire en sorte d'arriver jusqu'au bout, quoi. Donc, on a commencé à faire des sons de système, on allait louer les sonos à droite à gauche, on allait chercher des boissons chez les frères Tank dans le 13e. Faut peut-être que je dise une autre marque, hein, non ?
Non, c'est pas grave.
Voilà, on organisait tout nous-mêmes.
On essaiera de gratter un sponsoring après, tu vas, direct.
Direct.
On a dit votre nom.
On va s'y mettre un peu de sous.
Peut-être.
Voilà, donc on faisait tout nous-mêmes et c'est ça qui nous motivait. C'était d'avoir besoin de personne. Et puis en plus, ça marchait. Donc voilà, quoi.
Époque où vraiment le dancehall ou le ragamuffin, effectivement, parce que c'était du ragamuffin, on disait raga reggae, se mélangeait aussi beaucoup avec le rap. T'as fait des énormes featuring avec IAM qui sont devenus légendaires par la suite. T'as quand même continué, t'as donc à faire des études. On m'a dit que t'avais fait des études de photographie et puis de menuiserie. Donc j'ai pas bien compris. Donc
ça c'était avant de faire de la musique.
C'était bien avant.
Ouais, bien avant.
T'avais pas commencé à faire de la musique en scred, en sound system,
non,
tout ça.
Non, même pas.
Non,
non, non, non, j'envisageais même pas de faire de la musique à cette époque-là. À cette époque-là, il s'agissait de me trouver une activité, quelque chose à faire, parce que j'étais déscolarisé, donc on m'a orienté dans un premier temps vers la menuiserie, qui s'est avéré pas être trop mon truc. Ensuite, j'ai fait un peu de photo, mais bon, c'était de la retouche photo, j'ai pas expliqué ce que c'est retoucher les photos au pinceau et à l'encre de Chine avec les nuances de gris, de noir, etc. C'était un boulot qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Et puis je suis tombé dans la musique. Pour moi, c'était un hobby, hein. C'était une activité. Voilà, on avait une émission de radio parce qu'on avait beaucoup de disques. Donc quelqu'un nous a dégoté une émission de radio.
Et t'as une vraie voix de radio pour le coup.
Voilà, bah en fait, c'est ça qui m'a amené à chanter en fait. Mm-hmm. Et les gens me disaient, ouais, putain, t'as une bonne voix à la radio, tu devrais essayer de chanter. À force qu'on me dise ça, bah, un jour j'ai essayé quoi.
On fait des sauts quantiques comme tu vois hein, dans l'émission.
Yes.
Je vais passer un titre qui a été l'un des titres déterminants, ou en tout cas le début de quelque chose. Mm-hmm. J'aimerais que tu me décrives ce qui s'est passé, comment tu peux le voir avec du recul, avec 20 ans de recul.
Le jour se lève encore ici bas, mais la vie n'a plus le même éclat. Et si le soleil brille, baby, il ne brille plus pour moi. La journée s'annonce claire et limpide, mais dans ma tête je dois faire le vide. Le temps s'est arrêté ici depuis que tu n'es plus là.
Elle te rend ding 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 quand elle a son poum poum shot. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend dingue. Boy, quand elle whine dans son shot.
Elle te rend dingue. Classique. Premier énorme banger, même si t'avais posé sur des bangers, il y a eu plein de titres hyper connus dans le monde urbain, dans le monde du rap, dans le monde du dancehall. Celui-là, ça devient, c'est un raz-de-marée. Mm-hmm. Avec toutes ces années de recul, comment tu pourrais décrire ton parcours de ces 20 dernières années en adjectif?
Depuis cette époque-là?
Ouais.
En fait, un signe du temps, et donc ce morceau-là, surtout, c'était un défi, en fait. Toi, tu t'en souviens, je pense, Juliette.
Je m'en souviens très, très bien.
Tu t'en souviens, mais avant un signe du temps.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on disait de moi? Nutty, il sait pas faire de tube. Nutty, il a pas de tube.
C'est vrai.
Il fait des albums sympas, c'est cool, mais il a pas de tube.
C'est vrai.
Il y avait des artistes qui avaient déjà des tubes bien avant moi, que ce soit Pekar, Agasonic. Ils étaient plus connus que moi à cette époque-là. À force d'entendre ça, j'ai pris ça un peu comme un défi. Je me suis dit, ah bon, Nutty, il n'est pas capable de faire des tubes. Bon, on va essayer, on va voir. Alors, le challenge de ce truc-là, c'était de faire quelque chose d'original. De pas avoir à copier les autres pour être dans la tendance ou pour faire un truc tendance.
Et puis, sans te fourvoyer. En restant réel, en restant toi.
Exactement. Donc, en fait, on a inventé un truc.
Mm-hmm.
Moi, je me souviens, quand on a fini ce morceau, la maison de 10 disait, on sortira pas ça. On comprend pas où est le refrain. Pourquoi tu chantes au lieu de toaster? Pourquoi tu toastes au lieu de chanter? Et c'est quoi ce couplet en créole? Tu vois? Donc, ils en voulaient pas, en fait, de ce morceau. Donc, j'étais un peu déconcerté parce que pour moi, c'était le morceau qui allait me faire décoller. C'était un morceau que j'avais conçu comme ça pour montrer un peu toutes mes facettes. Donc, puis bon, voilà, il s'est avéré qu'ils se sont lourdement trompés, mais grave trompés,
mais
et que j'avais pas tort.
T'avais même très très raison.
Et puis voilà, c'est un morceau, mais nous-mêmes, on s'est dit, ouais, on prend un risque. Parce que des morceaux comme ça, il n'y en a pas.
Mm-mm.
Parce que c'est facile de faire un morceau qui est dans la tendance, de reprendre les codes qui sont déjà existants, pour pouvoir surfer sur la vague du moment. En général, quand une maison de disques te demande de faire un truc qui marche, c'est vers ça qu'on va. Tu vois, la tendance, machin, tout ça. Moi, je voulais pas aller vers ça. C'était vraiment mon challenge. Faire un truc que les gens puissent écouter, mais les gens de tous âges et de toute nationalité, de tout bord, de toute génération.
Et c'était identifiable.
Ça, voilà, identifiable. C'était ça le challenge. Et sans faire un truc qui est dans la tendance. Et en fait, sans le vouloir, en fait, quand tu fais ça, tu fais de l'intemporel, en fait.
Moi, là, j'ai l'une de tes plus grandes réussites sous le coude.
Ah bon?
Ouais. Okay. Je crois.
Coucou Juliette, coucou papa.
Oh.
On discutait un petit peu avec Juliette et elle me demandait de citer des choses qui m'avaient marqué dans mon éducation. C'est une vaste question parce qu'il y a eu pas mal de choses en 32 ans de vie, mais l'une des principales choses qui m'est venue en tête, c'est la persévérance de par ton parcours, de par le fait qu'on t'ait vu, enfin, sans que tu nous montres, mais en faisant partie de ta vie, forcément, on t'a vu te battre et surmonter les embûches et les épreuves qui ont fait que tu es là où tu en es aujourd'hui et que tu peux vivre de ta musique, de ce que tu as toujours aimé et de ce que tu as toujours voulu. Deuxième chose, c'est de faire les choses bien quand on les fait, d'aller jusqu'au bout, de connaître, de savoir de quoi on parle, de se cultiver sur la chose.
Comment elle est jolie.
Et ça, t'en es l'exemple humain avec le catalogue, la bibliothèque musicale qu'il y a dans ta tête, sur des styles divers et variés sur lesquels on t'attend pas forcément. Les gens seraient très étonnés. Et bah, moi, Salomé, Alan, tes trois enfants, je pense qu'on est, les rares ados qui pouvaient répondre à un blind test sur Marvin Gaye ou Curtis Mayfield à nos âges. On s'en rendait pas compte sur le moment, mais merci pour ça. Une petite question que je me pose, t'as été papa très jeune, comment tu l'as vécu en tant qu'artiste? Et aujourd'hui, comment tu vis le fait d'être papy?
Ouh là là, on dévoile des dossiers
les
là.
Les beautés.
Ah ouais, ça c'est les plus belles réussites de ma vie.
Eh oui.
Plus belles réussites
merci
de ma vie.
Nao, merci Nao que j'ai harcelé, je l'ai fatigué.
Et elle a bien tenu sa langue parce qu'elle m'a rien dit.
Attends, travail d'équipe.
bien joué. Voilà, déjà rien que le fait de voir ma fille là, voilà.
Elle est sublime.
Et ouais, tu m'étonnes. Et j'en ai oublié sa question.
Sa question, c'est... Donc elle te remerciait d'ailleurs pour l'exigence et pour tout ce que tu as transmis à tes trois enfants. Et elle te demandait si ça n'avait pas été trop difficile finalement d'être père aussi jeune en fait. Et qu'est-ce que ça fait d'être papy? Parce que tu es grand-père.
Ouais.
On vient
de voir
la petite bombe atomique.
C'est un truc de ouf. Quand j'y pense, je me dis, attends, est-ce que c'est moi? Bon. C'est mon premier enfant, Naomi. Donc quand elle est arrivée, c'était extraordinaire. J'ai kiffé, mais comme
t'avais
jamais.
T'avais quel âge quand tu l'as eu?
Je crois que j'avais 23 ans, un truc comme ça, 23 ans. Et non, moi j'ai vraiment kiffé. Et il était hors de question que ma vie d'artiste gâche mon plaisir de père et inversement. Donc j'ai bien séparé les deux. Quand j'étais artiste, j'étais à 100% artiste. Quand j'étais à la maison, j'étais à 100% le papa. Et même si j'avais un truc à faire musicalement, je le mettais au second plan et je m'occupais de mes enfants d'abord. Donc, et puis c'est, si vous saviez l'ange que c'est, depuis toute petite, moi j'étais verni. Elle est arrivée, elle a changé ma vie, elle m'a apporté douceur, harmonie, plein de choses. Il y a mon fils aussi, hein, mon fils Alan qui lui c'est la même chose mais d'une autre manière, on va dire. Et puis il y a Salomé qui est en fait la fille de la mère de mes enfants. Donc fille adoptive, on va dire, qui m'a apporté énormément. Elle m'a préparé au premier enfant, tu vois. Et j'ai appris énormément avec eux. Je regrette pas, si c'était à refaire, je referais plus tôt encore.
Et t'as géré, ça c'est magnifique d'avoir réussi à trouver cet équilibre, être 100% artiste et 100% papa.
Après je dis pas qu'il y avait un petit côté immature dans mes attitudes et mon comportement parce que j'avais 23 ans. Mais écoute, c'est pas grave. J'ai fait ce que j'ai pu avec l'âge que j'avais et puis mes enfants m'en veulent pas, donc ça va.
Non, pas du tout, c'est que du love en tout cas, vraiment, c'est que du love. Et j'ai eu la chance d'avoir Nao au téléphone, est vraiment adorable et en admiration. Voilà, elle disait que t'étais un vrai exemple de résilience, que t'étais en course
ouais,
de
fond. Je suis du genre à pas lâcher l'affaire.
Tu cours beaucoup.
Tu cours beaucoup,
tu tapes des 10, 15 kilomètres.
Ouais, jusqu'à
20. Tu fais du sport de combat aussi.
Ouais, aussi un petit peu. Un petit coucou à Jean-Charles Skarbowski qui est mon maître en la matière au niveau arts martiaux.
Et alors, puis humainement aussi, c'est un arts martiaux.
Moi j'ai commencé avec la boxe thaï,
ouais.
Et plus tard un peu de MMA. Mais je suis pas assez assidu, je m'entraîne pas trois fois par semaine. Je me maintiens en forme par contre. Pour que quand je vais en salle, bon ça va, je tiens le choc quand même.
Et puis la scène en plus.
Et puis la
ça,
scène,
ça
la
d'avoir
scène.
Du cardio.
Exact. Mais moi le sport, je le fais aussi par plaisir aussi. J'aime bien me mettre des petits challenges, faire. Moi je réfléchis pas en termes de kilomètres, mais en termes de temps. Tu vois. Je peux faire 15 kilomètres, mais ce qui m'intéresse, c'est combien de temps j'ai mis à les faire.
Combien de temps t'as mis à les faire? T'écoutes du son quand tu fais du sport?
Ah ouais, je peux pas, sinon non. Sinon,
t'écoutes
c'est
quoi?
Impossible.
T'écoutes qui?
En ce moment, j'écoute de l'afro beaucoup.
Oui, tu disais les Nigérians aussi,
ouais.
Pas mal.
Voilà, j'écoute beaucoup d'afro et je kiffe et ça m'aide à courir. C'est hyper bien produit, c'est hyper bien fait. Un morceau sur quatre et un tube, c'est incroyable ce qui se passe là-bas.
Ah, ils sont forts. Ils sont très très forts. Et ben moi, à l'inverse, je connais un grand sportif qui t'écoute quand il s'entraîne. Ouais. Et pas des moindres.
Salut Naughty, big up à toi. En tout cas, sache que j'ai écouté tes sons. Jusqu'à maintenant, j'ai encore de tes sons dans ma playlist. Et big up à la petite famille. Ciao.
Monsieur Teddy Riner, voilà.
Waouh.
C'est quand même la classe. Merci Teddy. Merci Teddy.
Bah, c'est juste le plus grand judoka de l'histoire du judo.
Oui,
quoi,
mais
en
oui,
fait.
Mais je, voilà.
Le plus grand et
très très grand sportif.
Il est guadeloupéen.
Ben bah, oui, évidemment.
Quand même.
Ça ne nous avait pas échappé.
Voilà.
J'espère que ça te donnait du juice pour l'album, pour Tribulation.
Grave.
Puis pour tout ce qui arrive derrière. On a un rituel avant de se quitter dans Légendes Urbaines, qui est de passer un message universel aux centaines de millions de personnes qui nous suivent. Quel serait-il ?
Méfiez-vous de l'orgueil. C'est ce qui tue l'humanité. Analysez toutes les situations bizarres sur cette planète et vous verrez que tout part de l'orgueil. Donc méfiez-vous de l'orgueil. À différencier de la fierté ou de l'ego. Ça n'a rien à voir. L'orgueil, c'est de la connerie. L'ego, il faut en avoir pour avancer. La fierté, ça pose pas de problème quand on est fier de ses projets, quand on a une espèce de fierté comme ça. Mais quand la fierté dépasse un certain stade, ça devient de la merde, en fait.
Ça devient de la prétention, en fait.
Ça devient de la prétention et c'est ce qui tue l'humanité, en fait.
L'estime de soi n'est pas justement l'orgueil, c'est ça. C'est deux choses.
L'orgueil, c'est quelque chose, c'est un poison.
Ok, merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était un plaisir de te recevoir. Tu es ici, chez toi. Je fais un gros big up à Jacques. Au passage, quand même, c'est la famille qui est là parmi nous. Fatih, qui est venue nous faire un coucou à Christelle.
Oh man.
Voilà, au make-up. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour l'émission version longue avec le grand Naughty, au cours de laquelle on s'est raconté plein de belles choses. Et en attendant, comme à l'habitude, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Naughty.
One love.
Nous gagnerons ou nous perdrons ensemble. Nous pleurerons ou nous boirons ensemble. On est tous embarqués sur le même navire qui sont. Nous survivrons ou apprendrons ensemble. On se retournera, car plus rien ne tournera à part la valse de nos illusions. Demain on en rira, mais aujourd'hui on est sur le front cherchant la solution à nos divisions. Une chose est sûre, c'est que nous gagnerons ou nous perdrons ensemble. Nous pleurerons ou nous boirons ensemble. On est tous embarqués sur le même navire qui sombre. Nous survivrons ou apprendrons ensemble. Quand ton rôle est trop dur à incarner, quand tu n'es plus sûr d'y arriver, si devant toi se dresse le monde entier,
faudra jamais oublier.
Nous pleurerons, nous boirons ensemble. On est tous embarqués sur le même navire qui sombre. Nous survivrons ou apprendrons ensemble.